Il est 8h sur France Culture, c'est l'heure du journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Génération 2018, des millions de Français hier soir ont fêté la victoire de la France en Coupe du Monde de football, liesse populaire, joie authentique et récupération politique. Nous reviendrons sur cette soirée en début de journal.
Donald Trump rencontre Vladimir Poutine aujourd'hui à Helsinki, une poignée de main symbolique. Ce sera la première en sommet bilatéral, mais qui cache de grands désaccords et un imbroglio juridique, vous l'entendrez.
Chômage, manque d'eau et d'électricité, voici ce qui fait descendre dans la rue des centaines d'Irakiens depuis une semaine. 5 personnes sont mortes lors de manifestations.
Dans cette édition encore, vous vous pencherez sur la libération attendue de Jamel Bega, l'islamiste algérien emprisonné en France. Paris pourrait l'extrader vers Alger.
Et puis nous vous présenterons la messagerie cryptée du gouvernement, toute neuve. Elle devrait sécuriser les échanges numériques. Sous une pluie battante, à 19h32, très exactement heure française, le capitaine de l'équipe de France de football, Hugo Lloris, a soulevé la Coupe du Monde hier soir. Sur le podium où se trouvaient 3 chefs d'État, le français Emmanuel Macron, le russe Vladimir Poutine et la croate Kolinda Grabar-Kitarović, après ce 4-2 face à la Croatie. Au même moment, la Marseillaise résonnait un peu partout en France. La Marseillaise, les klaxons aussi, les fumigènes, du bleu, du blanc, du rouge, sur l'Arc de Triomphe et sur la Tour Eiffel, du monde, beaucoup de monde sur les Champs-Élysées, des centaines de milliers de personnes, place de la République aussi, à Paris, au Carillon, ce bar visé par les attentats du 13 novembre 2015, envahi hier soir par la foule, sur les places de Strasbourg, Marseille ou Lyon, évidemment, dans des fontaines à Rennes et à Nantes, des supporters de toujours ou supporters d'un jour qui exultent. Clotilde Ravel, bonjour.
Bonjour.
20 ans après la première étoile de 98, une nouvelle génération a rêvé hier.
Une nouvelle génération à l'image de Kylian Mbappé, 19 ans, le plus jeune champion du monde de l'histoire des Bleus. Il n'était pas né en 1998 quand les Benjamins de l'équipe s'appelaient encore Thierry Henry et David Trezeguet. Eux n'avaient pas marqué, contrairement à Kylian Mbappé, qui a offert hier à la France son 4e but grâce à une frappe imparable à ras de terre à la 65e minute. Une fierté pour le pays et pour sa ville d'origine, Bondy, dont la mère socialiste s'est exprimée hier.
Il y a une osmose complète, en fait, une harmonie complète entre ce que vit cette ville, ce qu'elle est, et ce qu'est Kylian. Les jeunes dont on ne parle jamais de nos banlieues, on parle toujours des quelques herbes folles qui nous prennent beaucoup d'énergie, mais on ne parle jamais de tous ceux-là qui sont juste magnifiques, qui réussissent. Donc si au moins le temps de la Coupe du Monde et plus longtemps, la France pouvait avoir un regard de fierté sur ses banlieues, eh bien moi je dirais que Kylian nous aura apporté ça en plus.
À la fin de la rencontre, le joueur a déclaré « On est fier de rendre les Français heureux ». Un sourire et une joie qui rappellent 1998. On ne va pas jouer au jeu des 7 différences, mais on ne peut s'empêcher de comparer les scènes de liesse, parce que rien ne ressemble plus au bonheur qu'une victoire en Coupe du Monde. Mais aussi parce que déjà en 1998, un homme était là, Didier Deschamps. Pour la 2e fois hier, il a soulevé le trophée suprême. Il s'est ensuite rendu en conférence de presse, ou du moins il a essayé, largement interrompu par des joueurs en liesse, Paul Pogba en tête, qui criaient à tue-tête « Vive la République, vive la France !» Une façon, une fois encore et sans le vouloir, de politiser l'événement.
Et des mots devenus slogans qui évidemment ont plu au président Emmanuel Macron, présent hier dans les tribunes au stade de Moscou, puis dans les vestiaires. Clotilde, il a exulté.
Vous avez mouillé le maillot, vous étiez fier du pays, vous avez porté tout le pays. Et donc maintenant, je vous le dis, plus jamais les mêmes. Cet exemple, vous allez me le porter.
Emmanuel Macron, filmé par certains joueurs. Le président avait 20 ans en juillet 98. Presque un adolescent aussi hier lors du match, Clotilde.
Oui, les spectateurs ont eu droit à un Emmanuel Macron tour à tour angoissé, presque en apnée, puis heureux. Il n'a pas caché sa joie à l'annonce du résultat, à l'image de tous les Français. Sur une photo officielle, on le voit debout, tout sourire, les deux pouces en l'air. À ses côtés, assis, il y a Vladimir Poutine, le président russe qui semble à la fois joyeux et circonspect de devant tant d'effusions. Cette photo, comme tant d'autres, nous rappelle que le foot est éminemment politique. Vous vous souvenez évidemment en 1998 de Jacques Chirac faisant mine de connaître les noms des joueurs, car contrairement à Emmanuel Macron, il n'était pas un grand fan de foot. 98 rimait alors avec reprise économique. Faut-il s'attendre au même scénario en 2018 ? Eh bien, pas forcément, car si cette année-là, la consommation des Français avait progressé de 3,8%, c'était surtout grâce à une conjoncture économique favorable, conjoncture portée par l'augmentation du pouvoir d'achat et de la reprise du marché automobile, et pas vraiment par la victoire des Bleus.
Merci Clotilde Ravel. L'amour, l'histoire d'amour entre Emmanuel Macron et les Bleus ne s'arrête pas à Moscou. Il les recevra en fin d'après-midi tout à l'heure à l'Elysée, après leur traditionnelle descente des Champs-Élysées à partir de 17h. Ajoutons qu'hier soir, la soirée a été émaillé de quelques incidents, vitrines brisées sur les Champs-Élysées, à Marseille et à Lyon également. Deux personnes sont décédées lors d'accidents. Et puis un dernier mot sur le mondial russe, une réussite incontestable selon les observateurs. Un grand silence aussi sur les questions des droits de l'homme et sur les questions de l'homosexualité en Russie. Peu de critiques ont trouvé écho chez les supporters. Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, par exemple, est toujours en prison et il fait toujours la grève de la faim depuis 2 mois maintenant.
Nous reviendrons sur ce mondial de football en Russie après ce journal, ce qu'il nous a peut-être un peu raconté de l'état du monde pour cette deuxième partie avec l'historien du foot Fabrice Archambault. Il est 8h06 sur France Culture. Le journal continue. Clara Lecoq-Réal avec une photo très attendue ce lundi.
La photo de la poignée de main entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les présidents américains et russes se retrouvent pour leur premier sommet bilatéral en Finlande, à Helsinki. Et Donald Trump avait assuré que ce serait l'étape la plus facile de sa tournée européenne. Mais l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 a connu de nouveaux développements. Ajoutez à cela le fait que la politique étrangère de Donald Trump met l'Europe sous pression, tout cela semble faire le jeu de Vladimir Poutine, Marco Voltaire.
Vladimir Poutine, est-ce un ami ou un ennemi ? N'ont cessé de demander les journalistes américains à Donald Trump ces derniers jours. C'est un compétiteur, leur avait d'abord répondu le président. Mais hier, dans une nouvelle interview, Donald Trump a mis la Russie dans le camp des ennemis. Par certains aspects, a-t-il nuancé, sans toutefois préciser sa pensée. Et c'est toute l'ambiguïté de la relation entre les deux hommes. Bien que la Russie soit sous le coup de nombreuses sanctions américaines, diplomates expulsés, actifs financiers d'oligarques et de proches de Poutine gelés, Donald Trump, généralement peu réservé, se garde de critiquer personnellement son homologue russe. Difficile donc de se projeter, de savoir ce que Trump dira à Poutine lorsqu'ils ne seront qu'accompagnés de leurs seuls interprètes pour leur premier sommet bilatéral. La Syrie, l'Ukraine, l'Iran sont des dossiers d'actualité, tout comme la question de l'ingérence russe dans le processus électoral américain. Donald Trump a promis qu'il en parlera, alors que vendredi dernier, la liste des Russes inculpés par le procureur Mueller s'est encore allongée. 12 officiers sont accusés d'avoir piraté les systèmes informatiques du Parti démocrate pendant l'élection présidentielle de 2016, raison pour laquelle les leaders de l'opposition avaient d'ailleurs demandé à Donald Trump en vain d'annuler ce sommet d'Helsinki.
Et comme pour détourner l'attention, pour apporter un autre sujet sur la table, le locataire de la Maison Blanche a une fois encore donné une interview choc hier soir. Il affirme que l'Union européenne et la Chine sont des ennemis de Washington sur le plan commercial. Guerre commerciale, menace protectionniste, il recommence donc, alors que le président du Conseil européen et le chef de la Commission européenne rencontrent justement aujourd'hui à Pékin le président chinois Xi Jinping. Donald Trump aura donc les oreilles qui sifflent. Face à lui, la Chine et l'Union européenne apparaissent comme des alliés de circonstance. Donald Tusk, président du Conseil européen, appelle d'ailleurs ce matin à éviter le chaos. Au moins 10 personnes ont été tuées hier au Nicaragua, 20 autres blessées dans des attaques lancées par les forces gouvernementales. Plusieurs localités aux mains des rebelles dans le sud du pays ont été visées. Et dans ce pays le plus pauvre d'Amérique latine, les manifestations contre le gouvernement et le président Ortega et leur répression ont fait au moins 282 morts en 3 mois. Des violences aussi au Mali hier dimanche. Une dizaine de civils ont été tués par des djihadistes présumés près de la frontière nigérienne.
syrienne. Dans cette région s'affrontent depuis des mois maintenant des djihadistes ayant notamment prêté allégeance au groupe État islamique, ainsi que deux groupes, principalement Touareg, soutenant la force française Barkhane et l'armée malienne. Pas d'attaque djihadiste en Irak, mais des manifestations violentes, sanglantes, depuis une semaine en marge de rassemblement pour dénoncer la corruption et la déliquescence des services publics irakiens. Hier, deux personnes sont mortes, le Premier ministre ayant durci le ton. Violence quotidienne donc à Bassora, la plus grande ville du sud de l'Irak, là où tout a commencé, Nabila Hamel.
Bassora est la ville qui abrite la plupart des installations pétrolières irakiennes. Or, dans un pays où la production et l'exportation d'hydrocarbures représentent près de 90% du budget national, les habitants de Bassora s'estiment lésés de voir 1% seulement de travailleurs locaux employés dans ce secteur. Aux questions de chômage s'ajoute un quotidien fait de manque d'eau et d'électricité. Le Premier ministre Haïdar El Abadi, qui négocie une future coalition gouvernementale après les législatives du 12 mai, a tenté de calmer les manifestants en déplacement vendredi à Bassora. Il a promis une allocation immédiate d'environ 3 milliards de dollars pour la province et des investissements pour l'habitat et les écoles. Il promet également de consacrer des fonds pour financer le dessalement de l'eau dans la région, l'amélioration du réseau électrique et des services de santé. Mais les Irakiens disaient, lors de nouvelles manifestations ce week-end, ne plus croire aux promesses. La grogne s'est donc amplifiée, notamment dans la province de Najaf, où l'aéroport de la ville a été occupé par plusieurs centaines de personnes. Samedi, à Kerbala, d'autres rassemblements étaient signalés hier. Le mouvement inquiète au plus haut point les autorités de Bagdad. Elles mettent en garde contre des actes d'incivilité, a signalé enfin qu'Internet est coupé depuis 48 heures.
Les précisions de Nabila Hamel. Il est 8h11, vous écoutez France Culture. Jamel Begal doit sortir de prison ce lundi. Considéré comme le mentor des frères Kouachi et d'Amedi Koulibaly, Jamel Begal a fini de purger sa peine de 10 ans de prison. Il avait tenté de faire évader un ancien du GIA, le groupe islamique armé. La France ne souhaite pas le garder sur son territoire. Elle dit avoir obtenu l'accord d'Alger pour l'extrader, mais rien n'est fait, Leïla Berato.
Originaire de Bordj Bouareïd, Jamel Begal a quitté l'Algérie au milieu des années 80, avant les manifestations de 1988, avant la victoire du fils aux élections locales. Ici, il n'est connu ni comme un cadre de groupe terroriste, ni comme un cadre de l'ex-parti politique du Front islamique du Salut. Si Paris affirme qu'elle a l'accord de l'Algérie pour l'extrader dès sa libération et que l'homme serait condamné en Algérie à une peine de 20 ans de prison pour ses liens avec le GIA, Alger n'a de son côté pour le moment fait aucun commentaire. L'Algérie a accueilli certains Algériens condamnés à l'étranger pour terrorisme, comme d'anciens prisonniers de Guantanamo qui ont dû passer une année en résidence surveillée à leur retour. Il y a aussi beaucoup d'anciens militants du Front islamique du Salut, réfugiés à l'étranger dans les années 90, qui sont revenus volontairement. Ceux qui n'étaient pas mis en cause par la justice algérienne ont pu s'installer librement. Ceux qui étaient mis en cause, à l'inverse, ont pu bénéficier des décisions de la Charte de réconciliation nationale. Ce texte permet aux terroristes repentis qui ne sont pas coupables de meurtre de se réinstaller dans la société avec interdiction de reprendre toute activité politique. Une source sécuritaire résume, s'il a été condamné par la justice, il fera de la prison, mais s'il veut revenir en Algérie, c'est qu'il pense pouvoir y vivre à peu près normalement.
Nous avions beaucoup parlé de la messagerie cryptée Telegram, utilisée notamment par certains djihadistes pour communiquer de façon cachée. C'est un peu la même chose que lance le gouvernement français. Il s'est doté de sa propre messagerie chiffrée. Elle s'appelle CHAP et s'inscrit dans la volonté de retrouver une forme de souveraineté numérique. CHAP est déployée depuis la fin de semaine dernière sur les téléphones d'une petite centaine de personnes au secrétariat d'État au numérique, Abdelhak Idrissi.
Cette messagerie chiffrée souveraine ne relève pas du symbolisme selon l'entourage du secrétaire d'État Mounir Majoubi. Il y a un vrai impératif opérationnel. Aujourd'hui, les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, ainsi que les hauts fonctionnaires, possèdent des téléphones cryptés, mais ces appareils ne disposent pas de messagerie. Alors pour échanger facilement, les fonctionnaires et même les ministres utilisent WhatsApp ou encore Telegram, une pratique inacceptable pour les professionnels de la sécurité informatique au sein de l'État, qui préfèrent voir les messages passer par les serveurs hébergés par le gouvernement plutôt que par les serveurs d'entreprises privées. Les services du Premier ministre ont donc développé une messagerie à partir d'un code open source qui propose les mêmes fonctionnalités que les services actuels. à savoir la possibilité d'envoyer des messages à une ou plusieurs personnes, la possibilité, comme sur Telegram, de s'abonner à des chaînes d'information et aussi la possibilité d'envoyer des pièces jointes. La messagerie était testée depuis quelques mois par une quinzaine de cobayes. Elle est utilisée depuis quelques jours par les membres du cabinet de Mounir Majoubi et les fonctionnaires de son administration. À l'automne, d'autres ministères devraient suivre. Le déploiement se fait progressivement pour permettre aux serveurs du gouvernement d'encaisser la montée en charge. À terme, l'idée est de voir la totalité des ministères, des collectivités territoriales et pourquoi pas les parlementaires utiliser Tchap. Mais pour être adoptée, la messagerie doit tenir la promesse d'un service fonctionnel, simple d'utilisation et esthétique, ce qui fait aujourd'hui le succès de WhatsApp et Telegram.
Des orages et des fortes pluies sont prévues ce matin sur le sud-ouest de la France, puis près de la Méditerranée et surtout l'est du pays dans l'après-midi. Un ciel bien nuageux partout ailleurs, notamment sur la Normandie et l'Aquitaine. Les températures sont plus fraîches avec 20 degrés ce matin à Brest et Toulouse, 24 à Besançon, 25 tout de même à Paris, Lyon et Lille ce matin, 27 à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal. Prochain journal à 9h.